L'architecture touristique serait-elle injustement mal aimée ou à tort déconsidérée, jugée moins légitime peut-être pour avoir le défaut d'apparaître un peu trop utilitaire au service de touristes qui font de plus en plus masse, réduits qu'ils sont à la position d'usagers spectateurs? Si les plus grands noms de l'architecture ont mené des projets touristiques, de Le Corbusier à Jean Nouvel en passant par Jean Balladur ou Georges Candilis, depuis quelques années le domaine du loisir et du tourisme semble être dans l'angle mort de la critique architecturale, c'est du moins le constat que fait Virginie Picon-Lefebvre dans un ouvrage qui vient de paraître. Bonjour à vous, Virginie Picon-Lefebvre.
Bonjour.
Et merci d'être ici. Vous êtes architecte, professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville, urbaniste et docteur en histoire de l'art. Vous publiez La fabrique du bonheur aux éditions Parenthèse. Votre idée est de redonner un peu de lustre à l'architecture de tourisme et de loisirs qui, et vous l'expliquez très bien, est un domaine pourtant en tension et qui devrait nous intéresser bien plus. Il est à la croisée de beaucoup de nos préoccupations du moment, après tout, hein, considérations écologiques, problématiques de mobilité, question d'égalité d'accès, c'est un domaine qui doit retrouver grâce.
Oui, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une sorte de négation de cette architecture parce qu'en fait, la grande période d'invention qu'elle a connue date un peu. Donc c'était lors du déploiement du tourisme de masse dans les années 60, et qu'aujourd'hui non seulement il faudrait repenser cette architecture, la rénover, mais la réinventer aussi ou la repenser, puisque les formes sociales qu'elle a accompagnées, qu'elle a hébergées, ont complètement changé, les familles ont changé, les pratiques de vacances ont changé également.
Et donc l'architecture devrait accompagner cette évolution. Le tourisme, parce que cet ouvrage est aussi un ouvrage presque de sociologie sur le tourisme, hein, et d'histoire aussi sur le tourisme. Alors c'est la moitié du 19e siècle, et il y a un coup d'arrêt après les années 60, c'est ça? Il y a toute une montée en puissance et en progression au fur et à mesure de la fin peut-être d'un tourisme aristocratique, puis d'un tourisme bourgeois, ensuite on arrive à un tourisme de masse, et vous nous dites que ça s'est arrêté dans les années 70?
Voilà, alors en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas ni le tourisme ni le loisir en soi. Bon, ça c'est un premier point, c'est vraiment l'architecture du tourisme et des loisirs, et c'est aussi l'arrivée de ce qu'on appelle parfois de manière très péjorative le tourisme de masse, et qui en fait correspond au tourisme de tout le monde, opposé au tourisme de quelques-uns. Et ce tourisme de quelques-uns, il était un peu discret, on pourrait dire, forcément, puisque c'était des élites qui voyageaient, qui consommaient et qui racontaient éventuellement ce qu'elles avaient fait, ce qu'elles avaient vécu. Et ça a donné naissance aussi, sans doute, au tourisme de masse, à partir des années 1850, donc c'est pas tout récent, hein. Souvent on pense que ça commence dans les années 60, ça commence dans les années 1850, et ça se développe progressivement aux grandes dames de ceux qui étaient les seuls jusque-là à pouvoir voyager et à pouvoir partir en vacances.
Il y a les guides qui ont joué un rôle majeur. Vous parlez du Touring Club de France aussi, qui s'est créé à ces périodes-là. Il faut voir une lecture politique, alors, parce que quand on explique effectivement, il y a une massification du tourisme, il y a peut-être un regard qui est porté sur l'architecture touristique.
Oui, moi je pense qu'il y a eu
un angle politique.
Il y a eu une sorte de réception assez dure de la part de gens qui étaient privilégiés quand ils ont vu, d'une certaine manière, débarquer sur les plages des gens qui étaient jusque-là empêchés parce qu'ils n'en avaient pas les moyens de partir en vacances, tout simplement. Et ce qui est intéressant du point de vue de l'architecture, c'est que on s'est demandé, en l'absence de référence, comment héberger, comment accueillir cette nouvelle population pour lesquelles le fameux petit hôtel de la plage était vraiment pas suffisant. Hein, c'était pas à l'échelle. Et donc, l'échelle des réalisations a été celle de la Grande Motte, par exemple, ou les grands aménagements de la côte aquitaine, et les stations de sport d'hiver qui ont été très largement, en France notamment, encouragées par l'État. Donc c'est vraiment un projet, pour le coup, de grande ampleur, avec des moyens qui sont considérables. Ces projets-là fonctionnent très bien, très vite, reçoivent un accueil du public qui, grâce aux congés payés, pour le coup, dans les années 60, 70, 80, peut partir en vacances, peut aller au bord de la mer ou peut aller en montagne. C'est un tourisme social aussi. Et ça, c'est important et intéressant de le dire parce que on produit des réalisations pour des gens qui n'ont pas les moyens. Et on leur permet de partir en vacances, pas simplement pour les enfants, pour les familles également, avec des formes architecturales qui sont, et c'est ça qui m'a intéressé, qui sont très originales.
Et vous voulez les réhabiliter, c'est ça un des propos. Il y en a d'autres, mais du livre La Fabrique du Bonheur que vous publiez, Virginie Picon-Lefèvre. Très souvent, vous venez d'évoquer la Grande Motte. On a dit beaucoup de mal de la Grande Motte par l'architecte Jean Balladur. On a dit aussi beaucoup de mal des stations, et on continue, des stations de sports d'hiver et c'est vrai, des tours ou des ensembles qu'on peut y observer. Vous dites, c'est aussi cette tension-là entre le fait d'accueillir beaucoup de monde et le fait de préserver quand même des espaces qui est intéressante et qui mérite qu'on s'intéresse à...
Oui, moi je voulais donner aussi des clés de lecture. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est que ces clés de lecture ne soient pas simplement réservées aux architectes ou aux critiques d'architecture, mais que ce soit des clés de lecture... d'une certaine manière, pour tous ceux que ça intéresse, hein, maintenant. Et cette clé de lecture, c'est aussi inscrire ces réalisations dans une histoire plus longue. Parce que c'est pas parce qu'elles sont faites pour un public particulier qu'elles n'appartiennent pas à l'histoire de l'architecture, et notamment sur des catégories qui sont celles de la lecture du paysage, qui sont par exemple la lecture du paysage en tant qu'un espace sublime, ou au contraire, en tant qu'un espace pittoresque, qui sont deux catégories assez opposées. Celle où on a peur, d'une certaine manière, et celle où, au contraire, on s'installe et où on est bien.
Alors, Henri Prost, quand il aménage la côte varoise, Virginie Picon-Lefèvre, il est plutôt dans une volonté de faire apparaître ce paysage de manière pittoresque. Il va chercher, et on va parler de la route, parce que la route est aussi une destination, dites-vous. Il va chercher à faire passer les voies de circulation dans les endroits les plus pittoresques. Ça, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié aujourd'hui avec les autoroutes qui sont là pour faire vraiment de la vitesse. À l'époque, début du première moitié du siècle, du 20e siècle, ça, c'était pas du tout la même façon de voir.
En fait, Henri Prost, qui est un urbaniste de notoriété internationale, qu'on ne connaît pas forcément aujourd'hui, mais réalise le danger de l'ouverture au tourisme déjà de masse de la Côte d'Azur et de la Côte du Var, et à la demande du préfet, organise d'une certaine manière une réflexion commune pour tenter d'une part de maîtriser l'urbanisation et en plus de protéger les paysages.
Et donc, mais il n'y arrive pas.
Non, il n'y arrive pas, mais c'est quand même, c'est un peu des germes de réflexion qui sont semés. Il préconise par exemple le fait qu'on commence à observer un peu partout, c'est qu'on a des temporalités, c'est-à-dire des moments où les vacanciers sont là et des moments où ils sont moins présents. Il préconise par exemple l'ouverture et la fermeture de voies en bord de mer. Il préconise l'installation de projets. Enfin, il réalise qu'on ne peut pas lutter contre le fait qu'il va y avoir des constructions, donc de projets d'aménagement des communes existantes, sans forcément les perturber à côté d'elles. Il préconise aussi l'absence de construction au bord de la mer, ce qui est assez...
Ça, c'est très tôt d'ailleurs, dans le XXe siècle, hein, c'est tout début du siècle. On voit bien que cette architecture, elle est toujours en tension. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on apprend à la lecture de ce livre. Tension entre, effectivement, donner ce que vous venez de dire, donner aux touristes ce qu'ils veulent, et en même temps respecter l'environnement. Tension entre le confort et la recherche d'authenticité. On veut l'aventure, mais on veut pas les dangers. On veut être seul sur son balcon, mais écrivez-vous, avoir accès très rapidement à une rue animée.
Voilà, c'est ça. Ça, c'est tout le paradoxe du vacancier. Ça a été développé notamment par les gens qui ont fait ces aménagements-là pour un des grands promoteurs de vacances que tout le monde peut-être connaît, qui s'appelle Pierre et Vacances, avec toujours cette volonté qui est à la fois problématique pour les architectes, de scénariser, c'est-à-dire de raconter une histoire. Est-ce que cette histoire, c'est une réalité ou est-ce que cette histoire est une fiction? Comment on s'installe dans un paysage? Comment on travaille avec les gens qui sont les habitants, hein, qui habitent là et qui bénéficient et ou souffrent du développement touristique? Et donc, effectivement, vous avez raison de le dire, c'est vraiment une tension qui s'opère là.
Jean Nouvel a travaillé pour Pierre et Vacances. Dans ce livre, on voit aussi, parce qu'il est richement illustré, un projet de Le Corbusier sur la côte, aussi varoise,
oui,
je crois.
Pour une station de sport d'hiver à Vars, au-dessus de...
Voilà, non, c'est à Vars, pardon. Un projet qui n'a jamais vu le jour, mais qui aussi parle de ça, c'est-à-dire raconte comment on peut essayer de faire venir le plus grand nombre
Oui, alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi l'idée de progrès social, parce qu'en fait, ce qui est le propre des architectes, c'est pas simplement, contrairement à ce qu'on peut penser, de construire des choses. Bon, ça, n'importe qui peut construire, mais c'est surtout de réfléchir à la manière dont l'architecture finalement accompagne ou pas un éventuel progrès social ou des modifications de l'organisation sociale. Et c'est vrai que de dire, par exemple, pour un grand nombre de ces villages de vacances, que les femmes ne devaient pas être recluses dans leur cuisine et donc privilégier des cuisines collectives, c'est tout un sujet, pour enfin avoir le temps d'être en vacances elles aussi, et correspond en fait d'une certaine manière à des conceptions qui aujourd'hui peuvent avoir vieilli et ou être réinventées par d'autres plus jeunes peut-être, qui de nouveau voudraient avoir bénéficié d'une expérience plus collective que celle d'être simplement dans sa chambre ou dans sa tente.
Vous avez parlé de fiction il y a un instant, Virginie Picon-Lefebvre, en parlant de cette autre quadrature du cercle qui est de donner à voir quelque chose qui n'est pas forcément la réalité. Il y a toute une partie de votre livre qui est consacrée au parc d'attractions. Il y a une autre partie qui est consacrée à Dubaï ou à Las Vegas, et on y voit des parallèles. C'est-à-dire qu'il y a, on voit quand même qu'il y a quelque chose de cet ordre-là à peu près tout le temps quand on étudie Dubaï dans son urbanisme et dans son architecture. En tout cas dans certaines parties de la ville.
Oui, alors sur Dubaï, moi ce que j'ai essayé de comprendre, c'est comment Dubaï était possible et quel était le projet de Dubaï, et d'essayer de le comprendre par rapport à cette question de l'architecture du tourisme et des loisirs. Et il est manifeste que Dubaï a voulu substituer à l'économie du pétrole une économie notamment basée sur le tourisme et les loisirs, mais avec cette différence que c'est pas pour partir en vacances peut-être, quoique, mais c'est aussi pour vivre de manière quotidienne le rythme les expériences des vacances.
Parce que ça s'adresse aux expatriés aussi. Hein.
Voilà, c'est ça. Pour attirer les expatriés, notamment les Anglais et les Hollandais, qui vont s'installer à Dubaï parce que des zones franches leur permettent d'échapper à des systèmes de taxes dans une situation qui est complètement construite à partir du rien. C'est le sol, c'est le désert et c'est un petit comptoir qui avait été construit par les Anglais dans les années 70. Mmh.
Qu'est-ce qu'il y a du parc d'attractions derrière Dubaï ou derrière Las Vegas aussi dont vous parlez ?
Alors, l'histoire du parc d'attractions à Las Vegas, vous savez que c'est la deuxième histoire de Las Vegas. La première est vraiment consacrée au casino. Et la deuxième, qui est plus récente, pour attirer le public des familles, ça a été de transformer effectivement Las Vegas en une sorte d'attraction permanente. Et de donner moins d'importance finalement au casino. Vous savez que Céline Dion et le Cirque du Soleil sont pratiquement à demeure à Las Vegas aujourd'hui. C'est une sorte de gigantesque zone d'entertainment, comme disent les Anglais. Mais pour Dubaï, c'est un peu différent, parce que pour Dubaï, c'est à la fois aussi une stratégie de développement de compagnies aériennes qui vont s'arrêter à Dubaï, et on propose aux gens de passer quelques jours à Dubaï et puis de repartir ailleurs. Moi je pense que cette espèce d'appétit peut-être plus occidental encore, de ne plus séparer la vie du travail et la vie des vacances, qui serait peut-être une sorte de tendance de nos sociétés contemporaines qui ne veulent plus avoir des ruptures franches entre différentes parties de l'année.
Ça concerne beaucoup les villes. Paris, au mois d'août, là en ce moment, est une ville qui a complètement changé, qui s'est renversée. Est-ce qu'elle est adaptée à ça ? Est-ce qu'on pense suffisamment ça ?
Pas forcément.
C'est ça aussi une des questions que vous soulevez.
Pas forcément, oui, parce que moi je crois que le raccourcissement, enfin tout ça s'exprime dans le raccourcissement du temps passé en vacances. Avant, les familles partaient 2 mois, les femmes travaillaient moins. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Ça n'existe plus. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de changement de comportement, parce que je pense, enfin, c'est pas seulement moi qui pense ça, mais les classes jeunes, les plus jeunes, sont beaucoup plus éduquées aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 40 ans, et donc ils n'ont pas forcément envie des mêmes choses que leurs parents ou leurs grands-parents maintenant. Et ils n'ont pas forcément envie de se poser sur la plage de manière un peu bécassine. Et ils veulent visiter des villes, ils veulent aussi aller voir des musées. Donc ça a complètement changé, je pense, aussi les pratiques.
Vous introduisez Michel Foucault en parlant de son concept d'hétérotopie. Est-ce que Paris est une hétérotopie temporaire ou ponctuelle et d'autres villes ? Parce que ça concerne évidemment bien d'autres capitales à travers le monde.
Alors, peut-être que Paris, non.
L'hétérotopie, en deux mots, Virginie.
Oui, l'utopie, ce sont, d'après Foucault, c'était un concept qui permettait d'illustrer le fait que dans certains lieux, par exemple une bibliothèque, par exemple les prisons, par exemple un hôpital, les règles de la vie commune, les règles habituelles n'ont plus lieu d'être, et d'autres règles s'installent pour organiser finalement les rapports entre ceux qui habitent ou ceux qui y travaillent.
C'est un peu ce que disait le Club Med au début, la vraie vie est ici, et elle n'est pas là où vous vivez.
Voilà, hein. Alors ça c'est, il y a un sociologue qui s'appelle Henri Raymond qui va étudier donc le Club Med au moment où il est inventé, et qui dit c'est formidable, tout le monde se tutoie, c'est de nouveaux rapports sociaux qui sont proposés,
ouais,
et à la fois il regrette le fait que ce soit posé comme une différence avec le monde réel. Voilà. Donc la question, c'est est-ce que l'hétérotopie doit disparaître ou est-ce qu'elle doit rester comme un moment exceptionnel où les règles habituelles ne fonctionnent plus et d'autres, en fait, se mettent à régir les relations entre les hommes, ou au contraire, est-ce qu'il faut bien maintenir les cloisons étanches et dire c'est ce que préconise Disney et qui est d'ailleurs peut-être fort critiquable d'avoir des règles qui supposent un monde idéal dans le parc et
dans
puis
le parc
ces règles-là
et dans les villes à côté aussi, hein,
ouais.
Dans les villes créées
par Disney,
par Disney notamment aux États-Unis, et vous évoquez longuement le Walt Disney World.
Mm-hmm.
Les Jeux Olympiques arrivent à Paris en 2024, Virginie Picon-Lefebvre, et vous parlez beaucoup des Jeux Olympiques,
oui,
comme moteur aussi d'un changement. Vous prenez beaucoup de cas qui sont très différents entre Atlanta, ce qui s'est passé à Atlanta quand on a essayé de redonner vie au centre-ville, ou vous prenez d'autres exemples qui sont exactement l'inverse. À Paris, comment est-ce que vous voyez les choses se faire? Est-ce que vous pensez qu'on pense suffisamment ce qui est en train d'arriver?
Écoutez, à Paris, normalement, l'enjeu par rapport aux autres Jeux qui ont été, entre guillemets, perdus, puisque c'est Londres qui les avait eus, l'enjeu, ce n'est plus de développer le centre de Paris qui est amplement touristique et peut-être même déjà complètement organisé pour recevoir les touristes. Non, l'enjeu, c'est de développer effectivement le nord de Paris, peut-être de donner une chance au Grand Paris. Ça, je pense que c'est vraiment un enjeu que ces Jeux-là pourraient prendre comme... parce que ça ne peut pas simplement être un projet d'infrastructure, le Grand Paris, et que si on arrivait à donner des qualités, alors là, pour le coup, architecturales et urbaines, à des territoires qui en sont un peu dépourvus, les Jeux, au moins, pourraient servir à ça.
Est-ce que vous êtes consulté? Est-ce qu'il y a suffisamment, dans ce que vous savez, en tout cas, quand un projet d'une telle ampleur arrive, et là, on parle d'un projet dans 5 ans, est-ce qu'il y a suffisamment de soutien scientifique au projet? Parce que j'ai l'impression que c'est aussi une des leçons qu'on peut tirer de la lecture de votre livre, Virginie Picon-Lefebvre.
Écoutez, moi je pense qu'il ne faut pas que ça prenne que la promotion, parce que le grand risque aujourd'hui de ces opérations-là, c'est qu'elles soient essentiellement pensées comme des opérations de promotion immobilière. Et ça, c'est le risque. Et on sait que les promoteurs aujourd'hui sont de plus en plus puissants et donnent peut-être pas assez de place à l'architecture au sens premier du terme, c'est-à-dire pas forcément esthétique, mais de la prise en compte à la fois des questions sociales, mais aussi des questions paysages et des questions d'histoire. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a toujours un risque que l'architecture soit un peu au service de la promotion pour faire gagner beaucoup d'argent, j'imagine, à ceux qui seront les développeurs de ces territoires.
Le risque, c'est la ville par collage, c'est la ville qui petit à petit s'agglomère sans forcément vision d'ensemble.
Oui,
et
le
ça,
risque.
C'est
oui.
Comme la ville, quoi.
Bah, le risque aussi, c'est que il y a deux risques. Le premier risque, c'est de vouloir tout nettoyer et de faire une espèce de territoire parfait, ce qui est complètement idiot et complètement impossible, et de ne pas travailler sur les continuités. Mais cela dit, on ne veut pas non plus vouloir développer le type urbain parisien dans ses continues sur l'ensemble du territoire de l'agglomération. Donc il y a des choses à chercher. C'est ça qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que vous ne pouvez pas faire ce qu'on a déjà fait, par exemple à Paris. Moi, je suis contre l'idée qu'on va développer une espèce d'osmanisation sur l'ensemble des territoires de la périphérie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qu'on invente?
Et certaines des clés sont peut-être à chercher dans ce livre. Merci beaucoup, Virginie Picon-Lefebvre. Vous publiez La Fabrique du Bonheur aux éditions Parenthèse.